Bonjour, vous êtes sur Radio B 90.0, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel animée par Paul Turchet et Bruno Point. Aujourd'hui, un grand compositeur français, Camille Saint-Saëns. C'est un centenaire d'ailleurs, en 2021, le centenaire de sa disparition. Ce qui m'amène à le positionner dans son siècle. Il est à cheval sur deux siècles. Il est né en 1835. Il meurt en 1921. Si on regarde les grands compositeurs de l'époque, eh bien lorsqu'il naît, Liszt, Chopin et Wagner ont 20 ans. Debussy est né pratiquement avant lui, mais malheureusement pour Debussy, va mourir beaucoup plus tôt. On a César Franck qui est à cheval aussi, à peu près sur la même période, et puis Bizet aussi, mais tous deux aussi vont mourir plus jeunes. Donc c'est un personnage qui va finalement vivre à la fois les grands romantiques que furent Liszt, Chopin, Wagner, pour ne citer que Schumann, et puis va être quasi contemporain des novateurs que furent Debussy et Ravel. Et on est donc là sur quelqu'un, et il est vrai qu'il a vécu plus de 80 ans, qui a donc traversé tout le 19e et abordé largement le 20e. Grand musicien, tout d'abord organiste, nous y viendrons. Sa personnalité est une personnalité assez solitaire, bien qu'il ait eu une vie intense et qu'il a donné énormément de concerts. Il fut d'abord organiste, donc, et puis il était passionné par les mouvements musicaux, avec une dualité très intéressante dans son cas, c'est que autant il a pu fonder aux côtés de Fauré et de César Franck la Société nationale de musique française, qui voulait promouvoir la musique française, mais elle voulait la promouvoir non pas contre les autres musiques et par esprit nationaliste, encore qu'il était très patriote, mais elle voulait la promouvoir, car il voulait la promouvoir, et cette société était là pour ça, car elle était un petit peu en désaffection face à la puissance de la musique allemande. Mozart, Beethoven, Brahms étaient des compositeurs vraiment beaucoup, beaucoup joués en France. Donc il a promu, mais pas contre, puisqu'il a soutenu beaucoup les musiciens étrangers, y compris Wagner, alors qu'à l'époque, il y avait de grandes querelles entre la musique française et la musique wagnerienne. Donc on a quelqu'un qui a un peu l'esprit très ouvert et un peu comme Liszt, hein. Liszt qui était un de ses grands amis. Ce sont des gens qui avaient une aptitude à sentir les grands courants et les grands personnages et les grands musiciens. Ils se trompaient rarement. Nous allons débuter par une œuvre initialement écrite pour le piano, car nous en parlerons aussi. Saint-Saëns était un très très grand pianiste. Une œuvre écrite pour le piano qui s'appelle Allegro Appassionato, que nous allons écouter dans une version très séduisante pour piano et orchestre.
Thank you. Charles Camille Saint-Saëns naît donc le 9 octobre 1835 à Paris. Disons tout de suite qu'il est un enfant prodige, comme d'autres. Je pense souvent à Mendelssohn. Pour moi, c'est un peu le Mendelssohn français. L'élégance du style, la clarté, la limpidité, la facilité en tout cas apparente. À 3 ans, il commence à déchiffrer la musique. Il donne un petit concert à 5 ans et se produit véritablement en jouant 2 concertos, l'un de Mozart, l'autre le 3e de Beethoven pour piano, à 10 ans. Il commence le piano, j'allais dire tranquillement, avec sa tante. Et puis ses dons sont tels qu'il prend des cours, bien sûr, avec des compositeurs comme Stamati, Malleden, Halévy, Charles Gounod. Il entre au conservatoire à 13 ans et il en sort à 16 ans avec un premier prix d'orgue. Il vivra toute sa vie principalement de son piano, car c'est un pianiste et un des plus grands pianistes de son temps admiré. C'est un bourreau de travail. Comment le résumer, peut-être en un mot, il est infatigable. C'est un infatigable travailleur, un interprète infatigable, un compositeur infatigable qui laisse plus de 600 œuvres, un voyageur infatigable, un écrivain aussi infatigable. Il va écrire plus de 20 000 lettres dans sa vie. Écoutons-le tout de suite dans le deuxième concerto pour piano et orchestre dans le final du premier mouvement. Écoutons maintenant, toujours dans ce deuxième concerto, dont Georges Bernard Shaw dira qu'il s'agit d'un concerto qui commence par du Bach et qui finit comme de l'Offenbach. Dans le troisième mouvement, qui est absolument magnifique, vous avez écouté la majesté du premier mouvement, la clarté de l'élocution, la clarté de l'écriture, et là, toujours la même chose, toujours ce même style inégalé et inégalable. Deuxième concerto, troisième mouvement.
Paul l'a dit, Camille Saint-Saëns est un infatigable travailleur. Nombre d'amateurs de musique aujourd'hui, ou de tout temps d'ailleurs, l'ont un peu négligé parce qu'ils ne lui trouvaient pas un génie inventif tel que, par exemple, au hasard, Beethoven ou Wagner ont pu faire preuve dans leur vie et dans leur création. Mais Saint-Saëns a d'abord il sait tout faire, il a tout compris, il écrit, il a tout appris. Rappelons qu'il a commencé comme organiste. Pendant 20 ans, il a été titulaire de l'Orgue de la Madeleine. Et lorsqu'on est organiste, c'est encore vrai aujourd'hui, en fait, les organistes sont des savants. Parce qu'on ne peut pas jouer de l'orgue à un haut niveau sans être musicologue, sans avoir fait du contrepoint, sans avoir travaillé la fugue, sans avoir travaillé la composition et l'improvisation. Donc car l'orgue est un instrument complexe. Donc Saint-Saëns, lui, il a tout travaillé, il sait tout faire. Et il a un génie de la mélodie, il a un génie de la marche en avant, et tout ce qu'il fait est absolument bien fait. Si j'osais une comparaison un petit peu insuffisante, comme toutes les comparaisons. Peut-être qu'en gastronomie, on trouverait la même chose. On va avoir un talent génial qui va inventer des nouvelles choses en cuisine. Et puis, il y a des grands chefs qui font à merveille la cuisine, peut-être sans avoir inventé quelque chose de totalement nouveau, mais avec leur touche personnelle. Eh bien, Saint-Saëns, c'est un merveilleux musicien qui a tout compris et qui a le sens de la mélodie et de l'harmonie. Il va laisser une œuvre absolument considérable. 5 concertos pour piano, 2 concertos pour violoncelle, 3 concertos pour violon, des œuvres concertantes nombreuses, beaucoup d'œuvres pour le piano, notamment des études très difficiles puisqu'il était un grand pianiste, des œuvres pour orgue, 3 symphonies, des poèmes symphoniques. Il a adoré les poèmes symphoniques de Liszt et a trouvé sublime de parfaire cette nouvelle création. Poème symphonique, ça veut dire qu'on écrit avec un support littéraire ou un support de voyage. Il a écrit d'ailleurs des œuvres pour le piano, un peu comme Liszt, tout à fait comme Liszt, avec des supports littéraires ou des supports de voyage. C'était un grand voyageur. Et puis une œuvre considérable en musique de chambre, bien sûr l'opéra, nous en parlerons après, mais une œuvre considérable, et nous allons écouter son deuxième trio, le premier mouvement, qui montre qu'il a une connaissance approfondie de la structure et de la mélodie. Thank you.
Alors qu'il est célèbre, qu'il est reconnu, qu'il est acclamé, et à la suite d'épisodes douloureux de sa vie, la mort de sa mère qui va beaucoup l'affecter, de ses deux enfants très jeunes, la séparation qu'il vivra avec son épouse, Saint-Saëns va, entre guillemets, disparaître. Le tout Paris va rechercher Saint-Saëns, où est passé Saint-Saëns. Eh bien, Saint-Saëns a largué les amarres et il va découvrir la passion des voyages. Il va parcourir le monde, tout en revenant bien sûr en France de temps en temps, puisqu'il va s'établir entre-temps à Dieppe. Il parcourt le monde jusqu'à sa mort en 1921, puisqu'il va décéder d'une crise cardiaque en Algérie. Il effectue au moins 180 voyages. Il parcourt l'Europe entière, l'Extrême-Orient, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord. Et à 70 ans, il effectue une première tournée triomphale aux États-Unis en donnant de nombreux concerts. Il repart aux États-Unis alors qu'il a plus de 80 ans. Infatigable pianiste, Saint-Saëns est également un écrivain formé et forgé par le grec et le latin. C'est un excellent écrivain au style aussi clair, précis et condensé que peut l'être sa musique. Il écrit sur tout, parce que sa curiosité, comme le reste, est inépuisable. Il écrit bien sûr sur la musique, sur Wagner, qu'il admire et dont il se séparera ensuite. Il écrit en matière de zoologie, d'astronomie, de botanique, de spiritualisme, d'archéologie, de religion. Il écrit sur tout. Et il va laisser derrière lui environ 20 000 lettres qui feront la joie, bien sûr, de ses biographes. C'est ce qui représente une vingtaine de lettres par jour, en moyenne. Et au gré de ses voyages, il va composer un cinquième concerto pour piano, dont nous allons écouter un extrait. Ce concerto a été surnommé le concerto l'Égyptien. Et dans cet extrait, vous reconnaîtrez un passage tout à fait oriental. Thank you.
après le piano. Camille Saint-Saëns était donc un grand pianiste. Donc le piano avec ce style oriental, revenons à une forme très classique, la symphonie, et à l'orgue, autre grand instrument que pratiquait Camille Saint-Saëns. Puisque Saint-Saëns osa ce que Berlioz n'imaginait pas, puisque Berlioz disait l'orgue et l'orchestre symphonique sont incompatibles, l'orgue c'est comme le pape et l'orchestre symphonique c'est comme l'empereur, ils ne peuvent pas s'entendre. Eh bien Saint-Saëns y est arrivé, il a écrit une symphonie avec orgue. Rappelons que l'orgue était essentiellement à l'époque un instrument d'église pour une musique quasi religieuse. Bach est tout empreint de religion, même si sa musique dépasse de loin toutes les choses, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est très empreint de religion. Et le 19e, eh bien, nous arrivons avec l'orgue qui devient un instrument où on peut jouer de la musique profane. C'est d'abord parce qu'il existe des orgues hors les églises. Ça va être le cas pour cette symphonie pour orgue qui a été commandée par l'organisme de Londres, où il y avait une chapelle, non pas une chapelle, mais une salle de spectacle à l'intérieur de laquelle il y avait des orgues. Et donc, ça a donné l'idée à Saint-Saëns, qui fréquentait beaucoup l'Angleterre, qui y était allé très souvent depuis 1870. Rappelons qu'il était républicain et qu'il avait pratiquement soutenu la Commune. Donc, il a dû fuir Paris pendant quelque temps pour ne pas être emprisonné. Donc, revenons à l'orgue. Il a écrit pour cette grande salle de concert londonienne une symphonie pour orgue, mais nous allons écouter tout d'abord l'introduction du deuxième mouvement. On commence par le deuxième mouvement parce qu'elle est fort célèbre et qu'elle est vraiment d'une structure très classique et très dynamique. Liszt disait de Saint-Saëns qu'il était le plus grand organiste de son époque. Il aura joué sur des orgues les plus fameuses de l'époque, puisque dans cette salle de concert, le St. James Hall à Londres, eh bien, il y avait un orgue Märklin, qui était donc un très grand facteur d'orgue, qui avait inventé le nouveau système de transmission, d'ouverture des tuyaux pneumatiques et non plus mécaniques comme auparavant. D'où des querelles d'ailleurs entre les amateurs d'orgue à n'en plus finir, comme quoi les humains trouvent toujours des sujets pour se disputer et se quereller. Donc il a joué sur l'orgue Märklin à l'occasion de la création de cette symphonie à Londres, et il a joué à la Madeleine sur un orgue Cavaillé-Coll, l'autre très grand facteur d'orgue. Maintenant, écoutons la fin du premier mouvement, un long passage qui va nous permettre d'écouter le mariage entre l'orchestre et l'orgue.
Parmi toute son œuvre immense, donc symphonie, concertante, musique de chambre, citons deux œuvres originales. L'une, pour mémoire, Saint-Saëns est le premier compositeur de l'histoire de musique de film. Il a écrit en effet la musique du film sorti en 1908 qui s'intitulait « L'assassinat du duc de Guise ». Cela étant posé, il écrit aussi une autre pièce extrêmement originale qui pour lui est une pièce de farce, d'amusement. L'histoire est parfois ironique et le paradoxe de l'histoire fera que Saint-Saëns va retirer cette pièce de son catalogue. Il refuse qu'on la joue et il n'acceptera que ne soit jouée qu'une seule de ces pièces que l'on va écouter. Cette pièce s'appelle « Le carnaval des animaux ». C'est une des œuvres les plus enregistrées dans le monde de la discographie. C'est une grande fantaisie, un grand tableau zoologique, 14 tableaux, qui parodie les animaux, qui paraît en 1886. Et Saint-Saëns conçoit cette œuvre comme une amusette. Elle est pleine d'amusement. Il parodie un passage de la Damnation de Faust de Berlioz. Il parodie l'aria du barbier de Séville de Rossini. Il parodie sa propre danse macabre qu'il avait écrite auparavant. Il parodie des airs populaires tels que « J'ai du bon tabac », tels qu'au clair de la lune. Et il considère que ce n'est pas une œuvre de ses œuvres majeures. Il a dû beaucoup s'amuser en la composant, mais il refuse qu'elle soit jouée. À l'exception d'une pièce qui est magnifique, qui est devenue elle aussi l'un des standards de la musique dite classique, qui s'appelle « Le cygne » que nous écoutons au violoncelle et piano.
Vous aurez reconnu que le cygne était joué au violoncelle et accompagné par la harpe et non par le piano. Très bel instrument à cordes aussi, comme le piano, la harpe, mais à cordes pincées. Et d'ailleurs, ça nous fait penser, à Paul et moi, que nous pourrions faire une émission sur la harpe. Harpe pour laquelle, d'ailleurs, Saint-Saëns a écrit nombre de partitions. Après la délicatesse du cygne, la puissance du violoncelle et l'infinie finesse de la harpe, nous allons plonger dans le drame avec l'opéra biblique Samson et Dalila. Curieusement, Saint-Saëns a peiné pour écrire des opéras, il en a écrit 13. Seul Samson et Dalila a traversé les siècles. Ceci dit, c'est un des opéras les plus joués au monde aujourd'hui. Et il a eu une grande difficulté à mettre en œuvre cet opéra qu'il a porté pendant pratiquement 30 ans. Il y a beaucoup travaillé et il a fallu qu'il rencontre ce merveilleux ami des grands musiciens et ce grand ami de Saint-Saëns que fut Liszt, qui lors d'un séjour à Weimar... Et Weimar d'ailleurs, où Liszt et Saint-Saëns jouaient pour un concert anniversaire en l'honneur de Beethoven à deux pianos tous les deux, excusez du peu et regrettons que nous n'ayons pas pu voir un tel concert. Et c'est à cette occasion qu'il lui a dit qu'il travaillait à un opéra mais qu'il ne savait pas s'il pourrait le faire représenter. Liszt lui a dit « Envoyez-moi votre opéra lorsqu'il sera terminé, je le jouerai. Mais maître, cher ami, je vais vous en jouer quelques extraits. Pas du tout, je n'en ai pas besoin, je connais vos œuvres. La troisième symphonie, qui d'ailleurs était dédiée à Liszt, me suffit. Je sais votre talent et votre génie. » Donc cette œuvre, elle est très intéressante parce que d'une part, personne ne croyait au succès d'un thème biblique qui réclame beaucoup de spectacles et puis on était plus dans des drames intimes ou des drames de couple ou dans des pièces de théâtre à l'opéra plus qu'un drame biblique. Eh bien ce drame biblique il a fonctionné, mais c'est surtout très intéressant parce que c'est un des premiers personnages de femme qui ne soit pas une femme fragile. Très souvent dans les opéras jusqu'à Saint-Saëns et jusqu'à Bizet, c'est à peu près à la même époque que Bizet écrit Carmen, eh bien les personnages de femmes étaient en général des sopranes victimes d'un ténor qui très souvent les tuait, avec à leur côté un baryton qui en général était un traître. C'est très souvent comme ça que ça fonctionnait. Eh bien là, non, pas du tout. Comme dans Carmen, nous avons une Dalila qui est une mezzo-soprano, donc un petit peu plus puissant et un petit peu plus bas, et qui est une femme redoutable, qui affirme sa sensualité, son individualité, et qui va même aller jusqu'à la traîtrise. La traîtrise de quoi? Eh bien, Samson est le représentant du peuple juif qui a dû quitter l'Égypte et qui est maintenant dominé par les Philistins, et Samson va prendre la tête. Samson est très puissant et très fort et il va pouvoir affirmer l'indépendance de son peuple. Et bien Dalila, elle, va le séduire avec les armes de la sensualité et va lui faire dire que le secret de sa force, ce sont ses cheveux, secret que Samson ne révélait jamais, va lui couper les cheveux et il va finir en mort, condamné par le peuple philistin. Écoutons un premier air de Dalila qui vient célébrer la victoire de Samson, qui vient de gagner une grande victoire guerrière et qui commence sa séduction. Thank you. outre le personnage féminin qui, comme Carmen, va venir vraiment modifier l'image de la femme fragile dans les opéras, eh bien, cette musique, elle nous montre à quel point Saint-Saëns domine son sujet, domine l'écriture, domine la voix, et est capable de nous exprimer tous les sentiments humains. On ne peut que penser à Verdi, parce qu'on a là aussi une immense mélopée. Ça n'est pas un air fini, ça n'est pas un air de chant. C'est au contraire une histoire qu'on raconte. On entendait la basse qui est le grand prêtre juif qui dit à Samson de se méfier parce que Dalila est en train de le séduire et le prêtre est prudent. Et maintenant, nous allons écouter un deuxième air de Dalila qui est porté en écho par Samson. Mon cœur s'ouvre à ta voix, et on voit que Dalila continue de le séduire.
Oh.
tant de beauté alors que tout ça va si mal finir. Nous venons d'écouter deux extraits de Samson et Dalila chantés par John Vickers et Rita Gore et derrière la basse Anton Diakov. Auparavant, nous avions écouté Romain Descharmes au piano jouer l'Allegro Appassionato dans une version pour piano et orchestre. Deux extraits du deuxième concerto par Boris Berezovsky et l'Orchestre Philharmonique National de Russie. Le trio, l'introduction, le trio numéro 2, l'introduction du premier mouvement par le trio Boulanger. Le cinquième concerto par ce merveilleux pianiste qui est Bertrand Chamaillou avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Bertrand Chamaillou qui passe en ce moment même à Lyon. La troisième symphonie pour orgue, deux extraits par l'Orchestre de Paris dirigé par Paavo Järvi avec à l'orgue Thierry Escaiche, qui tient les orgues d'ailleurs de la Philharmonie de Paris, autre endroit où il y a des orgues profanes, puisque pas dans une église. Il y en a aussi, je vous le signale, à La Part-Dieu, à l'auditorium. Puis le Carnaval des animaux, le merveilleux cygne, avec Jacqueline Dupré au violoncelle et Ozian Ellis à l'harpe. Notre prochaine émission sera consacrée à un contemporain de Camille Saint-Saëns, à savoir César Franck. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.